Tournez avec moi dans la lettre aux Romains. Notre cher frère Normand est en vacances pour 4 semaines. En fait, il lui en reste 3. Alors, j'ai jugé bon de prendre une pause de l'Évangile de Matthieu, puisque j'ai 4 prédications à enchaîner et d'en profiter. Des fois, je pense que c'est John Stott, je pense qu'il a prêché pendant 10 ans dans l'Épître aux Romains, verset par verset. Après ça, on a appris un petit peu les pasteurs en regardant son exemple, peut-être à ne pas reproduire, à moins qu'il soit du calibre de cet homme-là, puis à changer la diète un peu d'une assemblée. Alors, comme on avance dans Matthieu tranquillement, qu'on en a probablement pour 2 ans, j'imagine, j'ai jugé bon de prendre 4 semaines pour aller explorer ensemble un autre livre. Et ce matin, on va commencer, et donc, en 4 semaines, on va passer à travers la lettre aux Romains. Si vous savez un peu, si vous connaissez un peu le contenu de cette lettre, vous avez une idée du défi qui est devant moi pour essayer de bien vous résumer cette lettre. Et par la grâce de Dieu, on va y arriver. C'est peut-être le livre le plus important du Nouveau Testament. Cette lettre est la clé pour la compréhension de tout l'Ancien Testament. Et c'est certainement la présentation la plus claire de l'Évangile de Jésus-Christ. La plus systématique. William Tyndale, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, qui est né en 1494 et mort en 1536, c'est lui qui a donné la première Bible aux anglophones, qui venait directement de l'hébreu et du grec. C'est de sa traduction, c'est sur sa traduction qu'on s'est basé ensuite pour faire la King James. Et William Tyndale pensait en fait que l'apôtre Paul avait écrit la lettre aux Romains comme une introduction à l'Ancien Testament. D'accord? Si vous connaissez l'ordre des livres, puis vous connaissez un peu le temps où ça a été écrit, pour Tyndale, lorsque Paul écrit la lettre aux Romains, c'était une introduction à l'Ancien Testament qu'il est en train de faire. Une introduction à la Genèse jusqu'à Malachie. Il a dit que cette lettre de Paul est le plus pur évangile qu'on trouve dans toutes les Écritures. Tyndale estimait que tous les chrétiens, écoutez bien ceci, devraient la connaître par cœur, au complet. C'est pas impossible. Un des premiers textes que j'ai mémorisé quand je me suis converti, c'est Romains 6, le chapitre 6 de Romains. Et ça a été vraiment une puissante bénédiction dans ma vie. Et alors que je suis en train de la relire ces temps-ci, je suis en train de revoir Romains 6. Non seulement estimait-il que tous les chrétiens devraient la connaître par cœur, mais qu'il devrait l'étudier régulièrement afin de la maîtriser et de découvrir des trésors sans fin qui s'y trouvent et qui ouvrent vraiment la porte à toutes les Écritures. Cette lettre nous apporte toutes sortes de choses. Elle nous aide à comprendre le cœur humain. Elle nous aide aussi à comprendre l'attitude des gens qui nous entourent à l'égard de Dieu. On va en parler spécialement ce matin. Elle nous conduit au salut qui est en Jésus-Christ et non seulement nous aide-t-elle à découvrir le moyen de salut par excellence, mais elle nous enseigne aussi à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ, libre du péché et des passions charnelles qui nous rendent si malheureux. Enfin, elle nous enseigne comment vivre chaque jour les fruits de l'Évangile dans notre vie. On va passer 4 semaines dans cette lettre. Donc, si vous n'avez aucune certitude quant à votre destinée éternelle, cette lettre est pour vous. Si vous trouvez que vous êtes un bon diable et que vous pourrez toujours vous arranger avec Dieu de l'autre côté, si Dieu il y a, cette lettre est pour vous. Ou encore, si comme moi, vous luttez avec des péchés qui semblent impossibles à chasser de votre vie, cette lettre est pour vous. Enfin, si vous avez besoin de tomber encore une fois en amour avec ce Sauveur merveilleux, afin de ranimer la passion dans vos cœurs pour l'Évangile de Jésus-Christ et de voir les âmes qui périssent comme un champ missionnaire à conquérir avec la dernière de nos énergies. Cette lettre est pour vous aussi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est avec crainte et tremblement que je me lance dans cette aventure pour résumer cette lettre, Seigneur. Comment lui faire honneur en 4 semaines? Elle est si dense, Seigneur, tellement riche. Dans tout ce qu'on va survoler simplement ce matin, j'aurai besoin de semaines et de mois, Seigneur, pour en tirer les trésors. Alors ma prière est simplement celle-ci, Seigneur. Accorde-nous la grâce de saisir l'idée de cette lettre dans les prochaines semaines. Accorde-nous la grâce de te voir, Seigneur, appliquer pour une première fois dans la vie de quelques-uns les vérités de cette lettre, afin qu'ils viennent à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Qu'ils cessent de pratiquer une religion pour entrer en communion avec leur Père céleste. Et donne-nous soif, Seigneur, de la lire et de l'étudier afin de saisir toutes tes Écritures. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble les 3 premiers chapitres de Romains. En fait, je vais m'arrêter plus précisément à Romains 3:20. La semaine prochaine, on va voir ensemble jusqu'à la fin du chapitre 5 et ainsi de suite. Alors accrochez-vous, on décolle et je vous encourage pendant la semaine à prendre le temps de la lire, peut-être à me devancer, ça va vous aider énormément, mais je vais vous lire pas mal de passages ce matin, plusieurs versets pour essayer de suivre la pensée de Paul. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Romains, aux chrétiens qui étaient à Rome pour leur exposer plus complètement l'Évangile de Jésus-Christ. Il voulait les affermir dans l'Évangile. Afin qu'ils puissent saisir toute la profondeur et la richesse de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Paradoxalement, l'Épître aux Romains n'est pas un traité d'évangélisation et pourtant il expose l'Évangile. L'Épître aux Romains n'a pas été écrite pour des non-croyants, des non-chrétiens, des gens qui n'auraient pas saisi l'Évangile de Jésus-Christ. La lettre aux Romains est écrite aux chrétiens de Rome, à ceux qui sont saints par vocation en Jésus-Christ à Rome. Et pourtant, l'Épître aux Romains expose l'Évangile. En fait, Paul dit au verset 15 du chapitre 1, Romains 1:15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, et comme s'il craignait de ne jamais avoir l'occasion de le faire de vive voix, il l'a écrit dans une lettre. Et il leur a donné cet héritage. » L'apôtre Paul savait qu'un chrétien qui grandit dans sa foi, un chrétien qui grandit à l'image de Jésus-Christ, c'est un chrétien qui grandit dans sa compréhension et dans son appréciation de l'Évangile. C'est un chrétien qui saisit qu'on ne passe pas à autre chose que l'Évangile, mais qu'on reste là. Tout est là. Comprendre l'Évangile et vivre l'Évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a jugé bon d'exposer encore une fois et plus sérieusement l'Évangile aux chrétiens de Rome. Au verset 16, Paul nous donne, versets 16 et 17, un résumé de toute sa lettre. Vous avez un résumé de toute la lettre, là. Je n'ai point honte de l'Évangile, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si vous avez 2 versets à prendre par cœur au cours des 4 prochaines semaines, ce sont ces 2-là. Et qu'ils puissent devenir l'objet de votre méditation, qu'ils puissent devenir réalité dans votre cœur. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, puis du Grec. L'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne nouvelle. Le mot grec veut simplement dire bonne nouvelle. C'est l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, si une personne veut comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bien, elle va devoir, premièrement, comprendre la mauvaise nouvelle du péché. Vous ne saisirez jamais la bonne nouvelle de Jésus-Christ si votre conception de Dieu, votre idée de Dieu, c'est un Dieu bonbon qui ne voit pas le péché, qui ferme les yeux là-dessus et qui attend tout le monde en disant « c'est pas grave, mon grand, viens-t'en ». Vous ne comprendrez pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la libération de la colère de Dieu et du juste courroux de Dieu. Alors, pour saisir la bonne nouvelle, il faut premièrement comprendre la mauvaise nouvelle du péché. Ce que Paul fait en commençant sa lettre, et c'est ça qu'on voit ensemble ce matin, les chapitres 1, 2 et 3, d'accord? Ce que Paul fait, c'est qu'il fait la démonstration que tous les hommes sont pécheurs et inexcusables devant Dieu. Si l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes, c'est que tous les hommes sont pécheurs et sont condamnés. Il n'y a personne qui est exclu. Toute religion, toute nation, tout peuple, partout sur la terre, si l'Évangile est la puissance pour le salut de tous les hommes, c'est que tous les hommes sont pécheurs, inexcusables et condamnés devant Dieu. Maintenant, l'approche que Paul va prendre ici, simplement pour vous aider à suivre le cheminement de sa pensée, c'est qu'il va travailler comme un entonnoir. Il va partir du plus large au plus étroit. Il va commencer par parler de tous les hommes, dans toute nation, tous les peuples, partout sur la terre, et tranquillement, il va resserrer pour parler du moraliste, de celui qui a des principes moraux, pour ensuite en venir aux Juifs, et par application, j'ai le goût de dire aux chrétiens. D'accord? Et c'est ça le cheminement de sa pensée, du chapitre 1 au chapitre 3, c'est comme ça que ça suit. Romains 1, 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La colère de Dieu se dresse contre tous les hommes, parce que si l'être humain voulait être honnête avec lui-même, il pourrait reconnaître qu'il y a un Créateur quelque part. Si l'être humain voulait être humble, il reconnaîtrait qu'il y a un être parfait, infini, invisible, plus grand que nous, qui a créé toutes choses. Et si l'être humain voulait être honnête avec lui-même, il reconnaîtrait qu'il n'est pas infini, qu'il n'est pas saint. On est tellement tortueux, tellement pécheurs, tellement méchants, que nous sommes étrangers à cet être parfait, à ce Créateur. Seulement, ça serait demander beaucoup d'humilité aux hommes, beaucoup d'humilité. Et Dieu nous dit que tous les hommes avaient la possibilité de reconnaître l'existence de Dieu. Et qu'ils l'ont encore aujourd'hui parce que Dieu l'a placé dans leur cœur. Et lorsqu'on regarde la création, c'est évident, c'est manifeste, qu'il y a un être plus grand que nous à quelque part. Tous les hommes sur la terre avaient la possibilité de crier à ce Dieu et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de dire « Je ne te connais pas, mais tu es là, tu es plus grand que moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. » C'est pas ce que les hommes ont fait, versets 21 et 22. « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Écoutez bien, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. » Ils sont donc inexcusables. Parce qu'au lieu de s'humilier, ils se sont crus plus sages que Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Paul ne part pas avec Adam et Ève, mais il aurait pu le faire. Paul ne commence pas avec Adam et Ève, il aurait pu le faire ici. C'est exactement ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont dit à Dieu, en d'autres mots, ce qu'ils ont dit à Dieu, c'est « Tu nous dis que ce fruit n'est pas bon pour nous. Nous sommes plus sages que toi, Créateur. Merci, on t'appelle lorsqu'on aura besoin de toi. » C'est ça qu'ils ont fait. Par orgueil, ils ont placé la créature au-dessus du Créateur, et c'est l'idolâtrie qui a commencé avec Adam et Ève. Ils ont adoré leur propre jugement au lieu d'adorer Dieu avec humilité. Ils ont placé leur jugement au-dessus du jugement de Dieu plutôt que de lui rendre grâce pour tout ce qu'il avait donné. Est-ce qu'il n'y avait pas toutes les raisons de rendre grâce? Il n'y avait pas de péché. Le monde était idéal, parfait. Je veux dire, qu'est-ce que tu dis? Merci. Juste merci. T'es merveilleux. Merci. Ils ont placé leur jugement au-dessus de celui de Dieu, plutôt que de lui rendre leur gloire. Ils se sont considérés plus sages que lui. Et ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, qui ne meurt pas, qui ne pêche pas, qui ne fait rien de mal. Du Dieu incorruptible en image représentant. Pensez-y à quel point c'est ridicule. L'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant toutes sortes de choses que Dieu avait créées. Ils ont servi, nous dit Paul, et adoré la créature au lieu du Créateur. Ils se sont fait des idoles. Et depuis ce jour maudit, où Adam et Ève ont posé ce premier acte d'idolâtrie, depuis ce jour maudit, l'être humain s'invente des dieux. Depuis ce jour-là, l'être humain s'invente des dieux et la colère de Dieu repose sur l'homme. Il s'invente toutes sortes de dieux, que ce soit l'animisme où l'on adore les animaux, la nature, que ce soit les mythologies où l'on s'invente des dieux à image d'homme, que ce soit l'humanisme qui a fait l'homme avec un grand H, Dieu, ou que ce soit encore l'athéisme qui prétend que Dieu est mort. Quelle arrogance! J'ai pris le temps cette semaine d'aller relire un petit peu des citations de ce triste personnage Nietzsche qui a dit « Dieu est mort ». Il y a quelqu'un d'autre qui est mort depuis. Et je ne voudrais pas être dans ses souliers actuellement. Quel orgueil! Quelle prétention! Nietzsche voulait voir le surhomme, le superhomme, l'homme parfait apparaître. Celui qui pouvait se moquer de Dieu et qui pouvait dire que Dieu est mort. Ainsi, Paul nous dit que tous les hommes s'inventent des religions. Ils sont donc inexcusables car ils avaient la possibilité de reconnaître qu'il existe un Dieu qu'on ne peut inventer parce que c'est lui qui nous a inventés. Il y a un Créateur. Mais les hommes ne sont pas prêts à le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans notre langage à nous, dans notre société à nous? Toi, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Et chacun suit sa propre voie. Ça, c'est notre société, c'est dans notre langage contemporain ici. La colère de Dieu se révèle du ciel, nous dit Paul, contre cette attitude orgueilleuse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Bien, pour exposer la folie de l'homme, Dieu fait ce qu'il y a de pire pour les hommes. Il livre l'homme pécheur à lui-même. Il n'y a pas de pire jugement pour un être humain que d'être abandonné par Dieu et livré à lui-même. Et on le voit à trois reprises, regardez au verset 24, Paul dit, « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Ainsi, se pensant sages, ils se sont livrés à la débauche, à l'homosexualité. Regardez les versets 29 et suivants, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Paul est en train de décrire notre société dépourvue d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils approuvent ceux qui les font. Laissez-moi vous donner un exemple comment une société que Dieu abandonne à elle-même peut approuver le mal. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé, j'ai juste souligné que le gouvernement du Canada a présenter des excuses à des milliers d'enfants autochtones qui avaient été arrachés de leurs parents puis placés dans des orphelinats, et plusieurs d'entre eux ont souffert toutes sortes de mauvais traitements. Et enfin, le gouvernement canadien a présenté des excuses. J'étais fier. Honnêtement, j'étais fier. J'ai trouvé ça génial. Bien, quelques semaines plus tard, on a remis cette semaine l'Ordre du Canada, la plus haute des honneurs qui existe au Canada, à Henry Morgenthaler. Je comprends pas. on vient de s'excuser auprès des enfants, puis on honore celui qui met à mort. Hein, c'est le père de l'avortement au Canada. C'est le champion de l'avortement au Canada. Nous sommes des bêtes. On libère les femmes en tuant les enfants. On est des bêtes, des hamsters qui mangent leurs petits. Je m'excuse, mais c'est ça pour moi. C'est ça qui arrive quand Dieu livre une nation à elle-même. Ils approuvent au point d'honorer des choses abominables. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Alors, il y a tous les hommes, selon Paul, tous les hommes qui s'inventent toutes sortes de religions. Toutes sortes de religions qui les mènent à la folie parce qu'ils se croient plus sages que Dieu. Et Dieu les livre à eux-mêmes. Mais ça amène toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés, toutes sortes de débauches dans la société. C'est le premier groupe qu'on trouve ici dans Romains. Ça englobe toutes les nations de la terre, toutes les religions de la terre, tous les coins de la terre, tous les peuples de la terre qui s'inventent toutes sortes de religions. Dieu les livre à eux-mêmes et on peut voir avec les yeux tous les vices qui en découlent. Ensuite, Paul passe à un autre groupe au début du chapitre 2. Paul parle d'un deuxième groupe. Il est en train de resserrer son entonnoir. Il va à présent démontrer que ceux qui ont une belle moralité, parce qu'il y a ceux qui vivent dans le péché ouvertement, et il y a les autres à côté qui ont de bons principes, une belle morale. Et il veut démontrer que ceux-là qui regardent de haut ceux qui vivent dans le péché ne sont pas mieux que les autres en réalité. Et c'est ce qu'il va démontrer au début du chapitre 2, les versets 1 à 3. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et qu'en penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Paul s'adresse ici aux moralistes. Paul est en train de s'adresser à tous ceux qui regardent le monde et qui disent « c'est pathétique ». Tous ceux qui regardent la fille passer et qui disent « regarde donc comment elle est habillée celle-là ». C'est à ceux-là maintenant qui est en train de s'adresser. Ceux qui regardent les jeunes générations qui arrivent et qui disent « c'est tout croche ces affaires-là ». Où ça s'en va ce monde-là? Avec un regard de mépris, d'accord? Je pense que Paul est en train de parler ici de tous les hommes qui ont une vie rangée et qui regardent de haut le reste du monde avec un certain mépris. Je pense aussi que Paul est en train de parler aux Juifs directement qui avaient un profond mépris pour les païens à cause de leur débauche et de leurs excès. Voyez-vous, il y a deux groupes. Il y a ceux qui se livrent ouvertement à la débauche et qui en sont fiers, ils s'en font un point d'honneur. Dans notre société, les médias en sont pleins, d'accord? Tu veux vendre des billets, sois le plus obscène, le plus croche, c'est hot, tu vas toutes les vendre, tes billets. Ça, c'est un groupe. On vient de le voir dans le chapitre 1. Mais Paul nous dit qu'il y a un autre groupe aussi. Ceux qui regardent tout ça, et qui, dans le fond, même s'ils ont une vie bien rangée, sont hypocrites. Parce qu'ils jugent tous ces gens-là et s'en font un point d'orgueil. Parce qu'ils convoitent aussi, parce qu'ils convoitent la femme de l'autre, parce qu'ils convoitent le char de l'autre, même s'ils ont une vie rangée. Et je pense que c'est Jésus qui a fait la meilleure démonstration de ça lorsque Jésus a dit, « Le meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui prend le couteau puis qui plante dans le dos de son voisin. C'est celui qui haït son voisin. » Celui-là aussi, c'est un meurtrier. Et l'adultère, ce n'est pas seulement celui qui va vers la femme d'un autre, c'est celui aussi qui convoite ou simplement qui discrètement reluque la belle-fille qui vient de passer. Ou celle qui ferme les yeux pour s'imaginer dans les bras d'un autre homme, qui la comprendrait mieux, qui serait plus tendre, plus attentif à ses besoins. Ça aussi, c'est l'adultère. Voyez-vous, ce que Paul veut démontrer, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Il y a ceux qui vivent ouvertement et avec fierté leur débauche. Quelle bêtise! Et ceux qui ont une vie rangée, qui regardent les autres avec mépris. Ce matin, je m'en venais sur l'autoroute. Laissez-moi vous l'illustrer avec ma vie à moi. D'accord? Parce que je pense que si Paul avait vécu à notre époque, il n'aurait pas juste dit les Juifs. Il aurait dit aussi ceux qui vont dans des églises chrétiennes. On s'en allait sur l'autoroute. Lorsqu'on débarque de Taschereau puis qu'on s'en vient prendre la 132 depuis plusieurs semaines, les policiers sont bien stationnés là. C'est une zone de 50. Alors, je m'en venais, respectant la limite de vitesse, roulais pépère, puis un jeune qui est arrivé derrière moi, puis je sentais qu'il commençait à s'impatienter derrière moi. Alors, je me suis tassé. Devinez quelle pensée m'a passé par l'esprit. Bien, comme de fait, on l'a pris la courbe, il s'est fait tasser sur le côté, puis les policiers lui donnaient une étiquette. Alors, lui vivait ouvertement son péché. Puis moi, qu'est-ce qui m'a passé par la tête? Yes! Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne me réjouissais pas de la justice, vous comprenez? Je me réjouissais que le baveux derrière moi venait de se faire pogner. Et ça, c'était de la vengeance. Et ça, c'était un péché. C'est de la vengeance. C'est un péché. On l'a connu de manière extraordinaire au Québec avec le catholicisme, où pendant très longtemps, il y a eu une religion qui était là et il y avait plein de gens qui semblaient vivre une vie très rangée. En réalité, les péchés de leur cœur étaient simplement cachés. Et il y a toutes sortes d'enfants qui en ont souffert aussi, même entre les mains de certains prêtres, mais pour ça, je ne peux pas condamner juste l'Église catholique, voyez-vous, parce que Paul nous dit qu'on est tous dans le même bateau. Et chacun d'entre nous qui fréquentons une Église, et comme le dit Paul, qui avons le discernement des choses meilleures, on le sait dans le fond de notre cœur. On commet les mêmes péchés. Qu'on commet les mêmes péchés. Paul est en train de nous dire qu'on est tous dans le même bateau. Dans le fond, il veut démontrer que tous les hommes sont pécheurs. Il y a ceux qui n'ont aucun discernement entre le bien et le mal, et il y a ceux qui ont connu la loi de Dieu. Ceux-là ont un certain discernement, mais aucun des deux n'a réussi à obéir à la loi de Dieu. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voyez-vous, dans les chapitres 1 au chapitre 3, verset 20, Paul fait la démonstration que tous les hommes sont pécheurs, qu'ils sont tous sous la colère et le jugement de Dieu. Et ça, c'est la vérité la plus difficile à accepter pour l'être humain. C'est la vérité la plus difficile à accepter pour l'être humain parce qu'au fond de nous-mêmes, on est tous profondément convaincus qu'il y a quelque chose de bon dans le fond. Nous sommes tous convaincus qu'on a quelque chose à offrir de Dieu, qu'on est meilleur que les autres, qu'il doit y avoir quelque chose en nous qui doit plaire à Dieu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil qui nous pousse à faire ça. C'est l'orgueil qui a poussé Adam et Ève à se rebeller contre Dieu et c'est l'orgueil qui coule dans nos veines. On est tous pécheurs. Regardez avec moi au chapitre 3, verset 9. Et je vous dis que certains dans cette salle vont être mal à l'aise avec ce passage. Je vous le dis tout de suite. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? N'est-ce pas ceux qui ont eu la révélation, qui ont reçu la loi de Dieu? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, grecs englobant tout le reste des hommes, sont sous l'empire du péché. Qu'est-ce que ça veut dire pour Paul, l'empire du péché? Bien, voici, il continue en disant, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. » Nul ne cherche Dieu. Croyez-vous cela? Toutes les religions de la terre. Nul ne cherche Dieu. Personne. Et croyez-moi, quand vous avez commencé à chercher Dieu, c'est parce que le Père avait commencé à vous attirer au Fils. Jésus l'a très bien exprimé, « Nul ne vient au Père s'il ne l'attire à moi. » D'accord? Lorsque vous avez commencé à chercher Dieu, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, avait commencé à vous attirer. Nul ne cherche Dieu à travers toutes les religions de la terre. Paul continue en disant, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Attends un peu, Yannick, là. Toutes les bonnes œuvres de la terre, non. Tout est corrompu par des motifs faux, d'orgueil, de propre justice. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Voici comment John MacArthur l'a exprimé. Et soyez attentifs, je pense que ça résume très, très bien à quel point le cœur de l'homme est tortueux. Le pécheur ne veut pas se voir dans sa véritable condition. Et il est convaincu à un degré ou à un autre qu'il est bon, qu'il y a du bon en lui. Les gens ne nieront pas qu'ils sont pécheurs et qu'il y a des péchés dans leur vie. Mais ils ne voient pas le mal dans le bien qu'ils font. Et ils ne voient pas le mal dans leur religion. Ils ne reconnaîtront pas qu'ils sont fondamentalement méchants, hostiles à Dieu et incapables de plaire à Dieu. Fin de la citation. Va dire à une personne que sa religion est un péché contre Dieu. Va lui dire ça. Que lorsqu'elle veut faire du bien, elle n'a pas de quoi plaire à Dieu encore. Et tu vas l'atteindre au plus profond de son orgueil. Tous sont pécheurs. Tous sont pervertis. Paul termine cette première partie de la lettre. Regardez le verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, parce que tous les hommes sont orgueilleux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermé et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Lorsque Tyndale disait que la lettre aux Romains est la clé qui nous aide à comprendre tout l'Ancien Testament, ce que Paul va nous enseigner dans cette lettre, c'est que Dieu a donné sa loi pour donner son standard et pour révéler notre cœur tortueux. La loi est un pédagogue qui nous montre en fait que nous sommes tous pécheurs, qui nous révèle le standard de Dieu et qui nous révèle notre incapacité à satisfaire à ces standards. Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Il y a un espoir après tout cela. Quand Dieu a commencé à t'attirer à lui et à te révéler à quel point ton cœur est tortueux, quand tu commences à lire les Écritures et tu réalises que tu n'arriveras jamais à satisfaire les standards de Dieu. Parce que l'Esprit commence une œuvre. Il est en train d'illuminer les yeux de ton cœur pour t'aider à saisir que tu ne pourras jamais satisfaire la justice de Dieu par toi-même. À ce moment-là, ton cœur est disposé et prêt à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la semaine prochaine. Alors, que faire avec ces trois premiers chapitres? Bien, premièrement, soyons humbles. Soyons humbles. Ce n'est pas parce qu'on va à l'Église et qu'on a le discernement des choses mauvaises qu'on a quelques raisons de se péter les bretelles et de regarder avec mépris. On vient tous de la même place. Et si ça fait assez longtemps que vous êtes chrétien, vous savez aussi que les combats continuent après. Vous savez aussi que le cœur tortueux est encore là. Soyons humbles envers ce monde qui est tout croche, attristant. Pleurons, pleurons sur les péchés du monde, de notre société. Soyons bouleversés, mais pleurons sur nos péchés à nous, premièrement. Deuxièmement, si l'Esprit de Dieu te parle ce matin, si l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre que tu es pécheur et qu'il n'y a rien de bon en toi qui pourrait te donner accès au ciel à cause du péché dans ta vie, tourne-toi vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Cette semaine, fais une chose. Lis et relis Romains 3, les versets 21 à 28 constamment. Lis-les, relis-les, médite-les et crie à Jésus-Christ afin que sa justice te soit appliquée par la foi. Enfin, troisièmement, pour tous ceux qui ont connu Jésus-Christ, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, mais cette semaine, faites quelque chose. Apprenez par cœur, si ce n'est pas déjà fait, les versets 16 et 17 de Romains 1. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Apprends-le par cœur cette semaine. Médite-le, laisse-le entrer dans ton cœur. Puis ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche avec cette conviction que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes qui sont autour de toi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever ce matin. Ce n'est pas un message si décourageant à cause de toi, Fils de Dieu. Nous avons célébré ton sang versé. Ce sang, cette croix qui est un objet de scandale pour celui qui ne comprend pas ton évangile, qui est scandalisé par l'idée que Dieu ait envoyé son Fils cloué sur une croix, verser son sang, qui trouve ça horrible. Seigneur, j'ai encore les paroles de Sylvain Lelièvre qui me reviennent à l'esprit. Toi, tu n'aurais pas fait ça, papa. Oh, ils sont scandalisés, Seigneur. Car ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas, Seigneur. Mais nous avons chanté ton sacrifice parce que tu nous as révélé que nous étions tous pécheurs, que notre condition est désespérée sans toi, Jésus. Nous voulons t'élever ce matin dans nos cœurs, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, Seigneur. Et dans ta grâce, viens, Seigneur, illuminer les yeux du cœur de quelques-uns dans cette salle. Et ouvre nos bouches cette semaine, Seigneur, avec une puissante conviction que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.